je vous invite à la prière d'abord. Nous lisons dans l'évangile de Jean, c'est Jésus qui parle, c'est l'Esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Je prions. Merci à notre bon Père Céleste, pour ton Fils, la parole faite chair. Merci pour la parole écrite que nous avons, qui pointe vers Jésus, la parole faite chair. Merci de ce que ces paroles sont les siennes et ces paroles sont esprit et vie. Nous voulons te demander de nous parler, de nous donner vie ce matin par cette parole, de donner la nouvelle naissance là où il n'y a pas encore la nouvelle naissance, de nous rafraîchir, de nous transformer, de nous conduire vers les chemins de vie et de santé en toi par cette parole. Nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen. En 1995, la chanteuse américaine Joan Osborne sortit une chanson écrite par Eric Bazilian qui traduit avait pour titre « L'un de nous » ou « One of us » ou « If God was one of us ». C'était une chanson, voilà, il y a quelqu'un qui va nous chanter ça. Il y avait, en tout cas, cette chanson a eu beaucoup de succès, tellement qu'il y a même des personnes qui sont capables de chanter ce matin, même en France. Et voici une traduction des paroles. Si Dieu avait un nom, quel serait-il? Et le lui lancerais-tu à la figure? Si tu lui faisais face dans toute sa gloire, que demanderais-tu si tu n'avais qu'une question? Ouais, Dieu est grand. Ouais, Dieu est bon. Ouais. Et si Dieu était l'un de nous, simplement un plouc comme l'un de nous, simplement un inconnu dans le bus, essayons de rentrer chez lui. Si Dieu avait un visage, à quoi ressemblerait-il? Et voudrais-tu le voir? Si voir voulait dire que tu aurais à croire en des choses comme le paradis, Jésus, les saints, tous les prophètes. Alors avec cette chanson, je ne pense pas qu'on soit forcément devant la haute théologie ou là où la poésie la plus raffinée. Mais quand même, quelque chose dans cette chanson a touché beaucoup de personnes. Il y a ce questionnement, il y a beaucoup de si, et même la possibilité que Dieu soit l'un de nous. Et aussi, je pense, une crainte dans cette chanson. Et voudrais-tu le voir? Si voir voulait dire que tu aurais à croire en des choses comme le paradis, Jésus, les saints. La crainte, en quelque sorte, d'être contraint face à la preuve, face à la réalité évidente qu'il y a un Dieu et qu'on peut le voir. Et croire en Jésus, croire en ce que la Bible dit, croire en le paradis et même... le contraire du paradis, l'enfer. Ce matin, notre passage répond à bien des égards, je pense, à ce questionnement. Il répond peut-être à notre questionnement, le vôtre, peut-être aussi à nos craintes. Donc, je vous invite à trouver dans les Bibles blanches Matthieu chapitre 1, et comme François a dit, donc à la page 617, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. » Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Alors dans ce passage, on est face à la bonne nouvelle de Noël. La bonne nouvelle de Noël. Et on va voir ça en trois temps ce matin. D'abord une nouvelle gênante, et puis une nouvelle époustouflante. Et enfin, une nouvelle qui nécessite une réponse personnelle. Donc, trois temps. Et d'abord, cette nouvelle gênante. Gênante, en tout cas, pour Joseph. Et c'est même une nouvelle qui a dû lui faire peur. Il est fiancé à Marie. À l'époque, les fiançailles avaient un caractère légal. C'est comme s'ils étaient déjà passés devant Monsieur le maire. Je me souviens, il y a quelques années, d'avoir assisté à une cérémonie de fiançailles à l'église copte, donc l'église égyptienne de Colombes. C'était toute une cérémonie devant plein de gens. Et on s'est dit après que ça serait difficile pour le couple, et on a vécu tout ça, de rompre. Ça aurait été très gênant. Mais en effet, ce couple a rompu leur fiançailles. On était très étonnés. Et dans un sens soulagés, parce qu'ils ont pu surmonter la honte, la peur, et ainsi éviter le pire. En tout cas, la peur et la honte ont dû habiter l'esprit de Joseph. Texte ne dit pas que Marie lui a expliqué que le bébé venait du Saint-Esprit. Peut-être Joseph avait tout simplement constaté la grossesse. Et il savait que le bébé ne venait pas de lui, le texte le précise bien, parce que c'était avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph était sans doute dans le désarroi. La femme qu'il aimait l'aurait trompé. En tout cas, c'est ce qu'il a dû penser. Et je pense que le verset 19 témoigne de l'affection, de l'estime tout du moins que Joseph avait pour Marie. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste, qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Il était juste, peut-être en sens où il n'allait pas couvrir, cacher un adultère, comme si de rien n'était. Mais en même temps, il ne voulait pas exposer Marie au déshonneur ou à une plus grande honte que nécessaire. En tout cas, Joseph était troublé. Et on voit que l'ange le reconnaît bien. Verset 20, comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur. » Parce que Joseph était gêné. Il avait peur. Il était gêné par le bébé de Noël. Il voulait s'en séparer sur la douce. Alors, notre société, je pense, aime bien cette période de Noël. Et ça fait un bon moment qu'elle a fait de même. Elle a évacué sur la douce, en quelque sorte, son contenu. Le bébé a été remplacé par le Père Noël. C'est clair que dans une société composée d'athées, de musulmans, de chrétiens, de juifs, Père Noël est nettement plus consensuel. Il fait moins de vagues, il fait moins peur. Il est simplement moins gênant. Mais revenons à la chanson qu'on a citée tout à l'heure, l'un de nous. Si Dieu avait un visage, à quoi ressemblerait-il? Et voudrais-tu le voir, si voir voulait dire que tu aurais à croire? Il y a cette peur, la peur de savoir. Et ça peut sembler préférable de rester dans l'ignorance, de ne pas penser à ça. Peut-être de remplacer tout ça avec le Père Noël. C'est plus simple. On n'a pas à penser à tout ça, à l'idée qu'il y a un Dieu, qu'il y a un visage et que ça change tout. Il y a des implications. Peut-être cette chanson communique quelque chose de là où vous en êtes par rapport à la foi chrétienne. Ou peut-être de là où vos amis, vos collègues, certains membres de vos familles en sont par rapport à la foi. Et vous savez que leur parler du message de Noël, de ce message clair qui n'est pas consensuel, ce message qui fait un peu peur en quelque sorte, risque de les déranger. Joseph, on le voit ici, était sur le point de faire la plus grande erreur de sa vie, le plus mauvais choix possible, par peur, par ignorance. Et c'est peut-être la même chose pour nos amis, pour les membres de nos familles. Et on a besoin de leur dire la vérité. Parce qu'on a, en effet, on le voit, on va le voir, on a ici une nouvelle époustouflante, une bonne nouvelle. Et c'est notre deuxième point. Et Matthieu nous explique que ce qui change la donne, c'est l'intervention de cet ange du Seigneur. Cet ange qui apparaît à Joseph dans un songe, un rêve. Ce ne sera pas la dernière fois dans ce passage, dans l'évangile de Matthieu, que cet ange apparaît. Donc c'est la première de quatre fois. Le texte ne dit rien sur ce que Joseph a vu. Il ne faut pas forcément penser à un ange avec des ailes sur un nuage. En tout cas, la Bible évoque très rarement l'apparition d'anges. Ça ne fait pas partie de l'expérience spirituelle normale. On est face ici à quelque chose de rare, d'exceptionnel. C'est ce que l'ange lui a dit qui a dû le laisser bouche bée. L'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Ce bébé n'a pas de père humain. Marie n'aurait pas commis un adultère. La Vierge est enceinte. Bien sûr, on est face à quelque chose d'unique, du jamais, jamais vu. Les sceptiques vont dire que C'est juste pas possible que les miracles, ça n'a jamais lieu, ça n'a pas lieu. Et si Dieu existe, il peut faire l'impossible. Et dans les Écritures, il nous a même préparé à ce moment exceptionnel de l'histoire, comme pour nous le montrer avant l'heure. Il y a déjà eu des naissances extraordinaires dans l'Ancien Testament, dans l'histoire d'Israël. On pense naturellement à Sarah et son fils Isaac, né dans sa vieillesse. C'était quelque chose d'impossible, mais Dieu a fait l'impossible. On peut penser à Anne, qui a eu Samuel. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant, mais Dieu lui a donné cet enfant. Mais avec Marie, c'est quelque chose de loin supérieur, d'encore plus exceptionnel, que le Dieu de l'impossible peut bien faire. L'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Ce bébé est un vrai bébé, un humain, à part entière, pleinement humain, mais il vient de Dieu. Et en fait, on va le voir, il est Dieu lui-même. Ensuite, le vocabulaire suivant, au verset 21, « Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus » fait écho à un texte de l'Ancien Testament qui est cité juste après, au verset 22. Soit c'est parce que Matthieu a relevé ce lien après, il a réfléchi à ce passage, à ce qui s'est passé, et ça lui a fait penser à ce passage dans l'Ancien Testament, ou bien c'est ce que l'ange a révélé à Joseph en citant ce passage de l'Ancien Testament à Joseph. Ce texte de l'Ancien Testament nous parle d'une vierge qui enfantera un fils, avec un nom particulier, Emmanuel. Et on a vu ce matin avec François que ça veut dire Dieu avec nous. Et donc l'ange est en train de dire à Joseph que ce bébé est vraiment Dieu. Qu'avec ce bébé, Dieu est manifeste, il est présent. Il aurait pris une chair humaine. Et c'était prévu. Il avait déjà été annoncé des siècles auparavant. Dieu avait déjà annoncé le signe. Et on a lu plusieurs passages dans Ésaïe, Ésaïe 7, Ésaïe 11. Mais au milieu de cette section, il y a Ésaïe 9. Et je pense que ça doit parler un peu du même enfant, le Messie, l'enfant à naître. Et voici ce qu'on lit au verset 5 du chapitre 9. « En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, la souveraineté reposera sur son épaule, on l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. » On a vu la semaine dernière dans la généalogie que ce fils qui est né, ce Jésus qui est né, est un fils de David, le roi, le trône de David. Mais on voit ici que ce fils de David est également Dieu lui-même, Emmanuel, Dieu avec nous. Joseph a dû être époustouflé. Et c'est difficile de saisir toute la portée de ce que ça veut dire. Dieu a pris une chair humaine, il est devenu homme, il a été un de nous, parmi nous. Si vous enquêtez en ce moment sur qui est Jésus, c'est sûr que Jésus était un homme avec un enseignement d'une sagesse extraordinaire. Dans ce sens, on peut parler d'un philosophe extraordinaire. Et c'était aussi quelqu'un qui a fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Mais les témoins oculaires de l'époque, comme Matthieu qui a écrit cet évangile, Matthieu que Jésus a appelé ce collecteur d'impôts, ils ont compris qu'ils avaient en face d'eux quelqu'un, oui, un enseignant extraordinaire, quelqu'un de bien, mais beaucoup plus que ça. Ils avaient en face d'eux Dieu lui-même. C'est pour ça que quand nous partageons l'Évangile, notre foi en Christ, notre but n'est pas simplement de parler de la philosophie ou de l'éthique, ou même de l'Église, ou même premièrement de comment la foi nous fait du bien. Nous voulons aider nos amis à rencontrer Jésus, lire ses évangiles, et rencontrer celui qui est l'auteur de la vie, celui qui est Dieu lui-même, qui puisse réfléchir à ses preuves, pour qu'il puisse le rencontrer. L'ange a dit à Joseph, « Tu l'appelleras Jésus. » Et ça, c'est un ordre que l'ange donne à Joseph. Joseph a dû être saisi par l'autorité de ce commandement. « Tu l'appelleras le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. » Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. En quelque sorte, c'est une échographie de l'époque. Il sait d'avance que c'est un garçon qui va naître. Mais on a aussi la mission, l'identité et la mission de Jésus qui est donnée. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ce nom Jésus est un nom important, c'est le même nom que pour Josué dans l'Ancien Testament. Ça veut dire l'Éternel sauve ou l'Éternel est le salut. Et ce que l'ange dit à Joseph fait écho ou fait allusion au psaume 130. Je vais juste vous lire psaume 130. Du fond du gouffre, je fais appel à toi, Éternel. Seigneur, écoute-moi, que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Si tu tenais compte de nos fautes, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel de toute mon âme et je m'attends à sa promesse. Je compte sur le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car c'est auprès de l'Éternel que se trouve la bonté. C'est auprès de lui que se trouve une généreuse libération ou rachat. Verset 8, c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes, de tous ses péchés. Et c'est ce dernier verset où on retrouve donc, ce qu'on voit dans Matthieu. Il y a un écho, une allusion à ce verset 8. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est qui lui? Psaume 130, l'Éternel, Dieu, Jésus, Dieu, l'Éternel, celui qui sauve son peuple de ses fautes, celui en qui on trouve le pardon, le rachat. Oui, dans le psaume, ce qui est évoqué, le peuple, c'est Israël. Mais comme Matthieu nous a déjà montré par la généalogie, et comme il va nous montrer dans la suite de son évangile, ce Jésus, celui qui est en quelque sorte Israël, l'Israélite parfait, l'Israélite obéissant, c'est lui, en accomplissant les promesses données à Abraham, qui va bénir toutes les nations de la terre. Et son peuple à lui, le peuple du Messie, de Christ, tous ceux qui se confient en lui, qu'ils soient juifs ou non juifs, lui appartiendront. Le salut qu'il va acquérir pour son peuple, ce n'est pas un salut de libération politique, c'est ce que certains attendaient à l'époque. Ce n'est pas non plus un salut économique. Je ne sais pas si les gilets jaunes attendent ce salut économique. En fait, son salut sera beaucoup, beaucoup plus grand et plus important, ce pardon. Ce pardon nous concerne tous. Tout au long de la Bible, on voit les conséquences de notre refus d'honorer Dieu comme il faut. On adore d'autres dieux, on s'adore nous-mêmes, on fait confiance à nous-mêmes plutôt qu'à lui. Et on voit que l'humanité, que nous tous, nous avons été éloignés de Dieu. D'une manière globale, l'humanité ne le connaît plus. On a été plongé dans les ténèbres, livré à nos désirs rebelles. On s'est enfoncé dans toutes sortes de choses avilissantes. Et la Bible nous dit que l'humanité tout entière est sous sa condamnation. Jésus lui-même, dans la suite de l'Évangile, nous parle de ce jugement à venir, même de l'enfer. C'est dramatique. Jésus nous dit, ça c'est la vraie réalité. C'est pour ça que c'est bien sûr plus facile de parler du Père Noël, n'est-ce pas? Un peu de bonheur ici-bas, un peu de temps, sans conséquence, c'est pas dramatique. Ça nous permet de ne pas penser à ces choses importantes. Si Dieu avait un visage, à quoi ressemblerait-il? Et voudrais-tu le voir? Si voir voulait dire que tu aurais à croire en des choses comme le paradis et Jésus. Parce qu'on voit ici que Dieu a un visage. Jésus est l'image parfaite du Père. Mais n'ayez pas peur, il est bon. Il vous veut du bien. Il veut vraiment apporter le bien dont nous avons le plus besoin. Ce bien qui est le pardon, la réconciliation permanente avec Dieu. C'est lui qui nous sauve de nos fautes, de nos péchés, des conséquences de notre péché, c'est-à-dire le juste jugement de Dieu à l'égard de nos fautes. Il nous sauve de la condamnation, il nous sauve de l'enfer. Il n'est pas dur, il n'est pas méchant. On le voit dans la suite de l'Évangile, il est tendre, il est humble. Le Dieu qui s'est donné à voir s'est rendu tout petit, il s'est humilié. Il a connu la mort, même la mort sur la croix, pour que tous ceux qui fléchissent le genou devant lui puissent connaître gratuitement par la grâce, comme un cadeau, ce pardon, cette réconciliation avec Dieu, cette vie éternelle. Ce n'est pas juste le message du Père Noël qui nous séduit, qui nous distrait. Même ceux qui disent suivre Jésus tombent parfois dans la distraction, dans une distraction qui nous fait oublier qui Jésus est vraiment, pourquoi il est venu. Parce qu'on peut avoir tendance à réduire l'Évangile juste à un baume qui nous fait un peu de bien, qui nous donne un peu de bien-être. Jésus nous donnerait un équilibre psychologique, un peu d'estime de soi, de la confiance en nous-mêmes. Jésus thérapeutique nous aide à vivre notre meilleure vie ici-bas. Et en fait, cette pensée-là est plus répandue dans nos églises qu'on ne le pense. Et bien sûr, Jésus nous donne un certain équilibre psychologique. Et en effet, Jésus et son salut est bienfaisant. Il nous aide vraiment dans cette vie ici-bas. Mais il peut nous aider vraiment, même nous aider dans ces choses-là, parce qu'il nous sauve du jugement, parce qu'il nous sauve de la condamnation, parce qu'il nous sauve de l'enfer, pour être à lui, réconcilié, pardonné de manière permanente. Et cette bonne nouvelle époustouflante est une bonne nouvelle qui nécessite une réponse personnelle. On va terminer avec ce point. Et c'est Joseph qui nous montre la voie. Joseph, versets 24 et 25. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, prit sa femme chez lui, mais n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils auquel il donna le nom de Jésus. C'est l'obéissance. L'obéissance qui découle de la foi. Parce que Joseph a fait marche arrière, ou plutôt il a fait demi-tour. Ça, c'est ce que la repentance veut dire. Se tourner vers Dieu en reconnaissant que nous marchions auparavant dans le mauvais sens, contre Dieu. On se tourne vers lui. On fait confiance à son Fils qui nous a donné. On fait confiance à sa bonté. Et cette repentance et cette foi en Christ se donnent à voir dans cette obéissance, dans cet accueil du bébé. Sans doute, ça a dû être difficile pour Joseph. Ça allait être difficile pendant de nombreuses années, toute sa vie. Et en effet, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Joseph a cru Dieu sur parole. Et humainement parlant, c'est un peu fou. Entendu le message, le bébé vient de Dieu. Ce bébé est Dieu. Un bébé qui va sauver son peuple de ses péchés. Et Joseph, est-ce qu'il va y croire? Ou est-ce que Joseph a dit non, quand même, elle m'a trompé? Joseph a entendu l'ange. Il a entendu le message d'Ésaïe qui parlait des siècles à l'avance de ce signe de la Vierge qui donnera naissance à un fils. Joseph lui-même espérait en l'Éternel et à l'écoute de cette annonce, il a cru. Il a cru Dieu sur parole. Il a cru la parole de Dieu, ses promesses. Et humainement parlant, je pense que c'est difficile pour nous de croire Dieu sur parole. On dit parfois que la foi est facile, que trop facile, ou que la foi est juste une béquille pour les faibles. Mais le fait de croire Dieu sur parole n'est pas simple. Croire cette bonne nouvelle qui dit que nous pouvons chacun de nous, quelle que soit la lourdeur de nos fautes, et peut-être il y a des choses dans notre passé qui sont bien lourdes, que chacun de nous pouvons connaître le pardon, nous pouvons connaître cette vie éternelle, cette réconciliation permanente par la foi seule. Nous pouvons l'avoir juste en plaçant notre confiance en Jésus. Crois Dieu sur parole que ça suffit. C'est pas simple. La confiance ou la foi vient en écoutant, lui dit l'apôtre Paul. Et c'est en lisant la suite de l'évangile que nous apprenons à connaître Jésus, à rencontrer celui qui est l'auteur de la vie, celui qui nous aime jusqu'au point de donner sa vie pour nous. Si vous vous posez des questions en ce moment, peut-être ça fait un moment que vous êtes dans l'église, cheminez avec nous depuis un moment, ou peut-être vous avez grandi dans cette église. Et si vous vous posez des questions, pourquoi ne pas lire la suite de l'évangile de Matthieu ce Noël? J'ai mis quelques exemplaires de l'évangile de Matthieu sur les comptoirs et à la sortie. Pourquoi ne pas le lire et voir la suite? Ou encore mieux, pourquoi ne pas demander à quelqu'un de lire cet évangile avec vous, peut-être quelques chapitres par semaine? Et pour nous tous, prions que Dieu nous donne le courage ce Noël de non seulement faire comme Joseph lui-même, mettre notre confiance en Christ, recevoir Christ, le suivre, mais prions que Dieu nous donne le courage d'en parler avec nos amis, avec nos collègues, nos voisins. Nous avons une bonne nouvelle époustouflante. Annonce le Dieu qui sauve quiconque s'agenouille devant lui dans la confiance. Il est vraiment venu. Dieu s'est donné à voir. On peut connaître son visage. Nous ne voulons pas que nos amis restent dans l'ignorance, dans la peur, mais nous voulons qu'ils voient ce visage de Dieu, le visage de Jésus, sur lequel on voit toute la bonté de Dieu qui nous a donné le sauveur dont nous avons besoin. Prions que Dieu nous fortifie. Prions. Notre bon Père Céleste, merci parce que tu ne nous as pas laissés dans l'ignorance ou dans les ténèbres, dans notre hostilité à ton égard. Mais tu nous as donné ton Fils. Tu as envoyé Jésus, Dieu le Fils, qui a pris une chair humaine s'est donné à voir. Lui, la lumière du monde. Merci pour notre Sauveur. Et merci aussi, notre bon Père Céleste, pour ceux et celles qui nous ont parlé de Jésus, qui nous ont donné un évangile, qui ont présenté Jésus, ce message époustouflant. Merci de ce que ton évangile a brillé dans nos cœurs et nous a fait rencontrer le Dieu que tu es, ce Sauveur bienveillant qui nous aime. Notre bon Père Céleste, nous voulons te demander de nous aider à être des lumières ce Noël, à briller nous-mêmes en portant, en donnant ta parole à ceux qui ne te connaissent pas encore, qui sans le savoir sont dans la crainte et dans les ténèbres. Nous avons besoin de ton courage pour annoncer ta bonne nouvelle. Nous avons besoin que vraiment que tu nous fortifies, que tu nous aides à voir les enjeux. Donne-nous un amour pour ceux qui autour de nous se perdent. Et nous te demandons toutes ces choses au nom de ton Fils et notre Sauveur bien-aimé, Jésus.